Écrire comme on respire, allaitement, point de suspension, écrire comme on va au combat, boxer la réalité, écrire pour dénoncer, témoigner, écrire pour dire, hurler, murmure ou gueuloir, écrire en vers, en rythme, dans le flot, écrire pour vivre, survivre, écrire pour écrire. Pourquoi écrivez-vous ? La question fut posée au plus grand. Bon qu'à ça, avait répondu Samuel Beckett en 1985. Quelques milliers, millions de livres plus tard, à l'heure du tout écran et des réseaux sociaux, la question est-elle encore aujourd'hui une question ? Roulement de tabour, il va la poser, je vais la poser. Bonjour Marin Fouquet.
Bonjour.
Vous avez 30 ans et vous publiez votre deuxième roman en cette rentrée littéraire. GAV, ça veut dire quoi ?
GAV, ça veut dire garde à vue. C'est ce moment où on peut être privé de ses droits pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures, selon les besoins de l'enquête, et on est mis dans un commissariat.
GAV, c'est un acronyme. Est-ce qu'il est utilisé dans le langage des commissariats ou c'est un geste littéraire déjà ?
Il est très utilisé dans le langage des commissariats. Il est à la fois beaucoup utilisé par la police, mais encore plus par les personnes qui ont l'habitude de faire, d'avoir affaire à la police.
Et qui ont fait donc une GAV.
On fait une GAV, on sort de GAV, voilà.
Trois lettres pour un très gros roman, plus de 400 pages. Ça y est, je la pose. Pourquoi écrivez-vous, Marin Fouquet ?
Pourquoi j'écris ? Je crois que j'écris parce que je suis bon qu'à faire ça.
Comme Samuel Beckett.
C'était ça, sa réponse ?
Mais oui, c'est ça. Il disait bon qu'à ça.
Ok, bon qu'à ça. Oh, ok. Quand je vous avais dit tout à l'heure, je me disais « bon qu'à ça, ça veut dire quoi ?»
Eh bien, bon qu'à cela, économie de mots,
ouais,
cela, ouais. Ça fait une contraction.
Ben oui, je crois que si j'avais su ou pu faire autre chose, j'aurais certainement fait autre chose. Mais c'est la manière d'être au monde qui, pour moi, est là où je m'en sors le mieux.
Mais pourtant, vous avez fait plein de choses avant d'écrire un premier roman, puis un second, puisque vous avez fait les beaux-arts, vous avez fait de la musique et aussi de la boxe.
Ouais.
Ça fait un parcours très éclectique.
Ouais, mais avec toujours, dans le fond, cette envie d'écrire. Je suis rentré aux Beaux-Arts parce qu'il n'y avait pas d'école d'écriture. J'ai fait du chant lyrique et du rap. Ce qui m'intéressait derrière, c'était les textes. Même dans le chant lyrique, hein, c'était ce que racontaient les histoires quand on chantait. Et dans le rap, bien sûr. Et pour la boxe, c'était juste que le corps en avait besoin. Tout simplement.
Mais écrire un morceau de rap ou un roman, est-ce que c'est proche ? C'est pas tout à fait la même distance, c'est pas le même souffle qu'il faut pour écrire 400 pages ou un texte de 3 ou 4 pages.
Ouais, effectivement, mais étrangement, je trouve que c'est bien plus complexe d'écrire un texte de rap que d'écrire un roman. Un texte de rap, il faut réussir en 2 minutes 30 à être autant puissant qu'un roman sur 400 pages. Et un texte de rap, pour moi, c'est plus de l'orfèvrerie. Il y a un truc d'artisan de luxe, quoi, où il faut vraiment faire en sorte que les phases, les phrases, tout ce qu'on dit, mais ça tombe sur la mesure avec le plus d'intelligence possible, le plus de force au bon endroit, au bon moment. Alors que le roman, on peut se permettre de se perdre des moments.
C'est un truc de paresseux ?
Le roman, ouais, je crois, ouais.
Ah, oh, oui. Ouais. Petit parallèle avec la boxe, est-ce que c'est aussi, est-ce que l'un apprend quelque chose de l'autre ? Est-ce que boxer, écrire, il y a une demande de précision qui pourrait être cousine ou voisine ?
Certainement. Après, je sais que ça a beaucoup été fait, le parallèle entre des écrivains boxeurs. On a beaucoup aimé avoir cette image-là. Moi, je sais que j'ai commencé la boxe, je pense, par problème avec ma virilité. Un besoin de prouver quelque chose à moi-même, aux autres. Et j'espère qu'aujourd'hui, je n'écris pas par souci de virilité. J'espère que justement, j'essaie d'écrire pas pour me prouver quelque chose ou pour prouver quelque chose aux autres, mais pour développer quelque chose, chercher quelque chose, raconter quelque chose.
Vous lisant et sachant que vous avez fait de la boxe, Marin Fouquet, j'ai pensé à cette phrase du dramaturge congolais Dieudonné Nyanguna qui dit écrire pour boxer la situation. Et je me suis dit, ce livre, GAV, boxe un peu la situation de la France d'aujourd'hui dans sa réalité la plus crue et parfois même la plus obscure, parce qu'on ne va pas tous les jours dans un commissariat de police.
Non, enfin, moi j'y vais pas tous les jours, vous aussi peut-être pas, mais il y a,
Rarement, je dois le
ouais.
dire.
Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont interpellées plusieurs fois par jour, plusieurs fois par mois, plusieurs fois par an, et qui se rendent bien plus que la plupart de la population en garde à vue. Et le dénominateur commun de ces personnes-là, bien souvent, elles sont racisées, elles viennent de quartiers populaires, elles sont jeunes. Et voilà, c'était aussi poser cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a seulement une partie de la société qui se retrouve confrontée à ces trois lettres, GAV?
Pendant 400 pages, vous nous enfermez donc dans une cellule de commissariat avec les protagonistes de votre roman, Marin Fouquet. Mais aux auditeurs, avant de plonger dans le commissariat, je propose une échappée belle. C'est la chronique ailleurs. Bonjour Théo Koutsaftis.
Bonjour Pascal Paradou.
Vous êtes attaché audiovisuel à l'Institut français de Grèce et dans votre pays, 2021 marque le bicentenaire de la Révolution grecque. Vous avez donc mobilisé les apprenants en français sur cet événement.
Exactement. Et donc dans un pays avec à peu près 8% de la population qui parle français, on a monté un grand partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le Musée national historique grec pour proposer un concours BD autour de ce grand événement qui est la Révolution grecque en français via l'application proposée par la Bibliothèque nationale de France qui permet à chacun de créer une petite BD ou une case de BD autour de cette thématique.
1821, c'est en fait le début de la guerre victorieuse contre l'Empire ottoman. Ce seront donc des bandes dessinées guerrières que vous allez avoir.
On a beaucoup de choses. On a des choses plus guerrières en effet, avec les héros de la Révolution et héroïnes. Mais on a aussi des choses qui se concentrent plus sur le quotidien, avec des objets, des gravures. Et c'est tout l'avantage de ce partenariat avec le Musée national historique grec, c'est qu'il y a beaucoup de gravures et d'éléments de leur collection qui peuvent apparaître dans les BD.
Bande dessinée, francophonie, ça marche bien en Grèce?
Bah écoutez, oui, on a un très bon retour de la part des écoles et des apprenants dans le public scolaire, mais aussi dans le concours grand public. Donc on attend la fin de ce concours le 15 novembre pour avoir les résultats, mais on est juste là très satisfait.
Vous disiez 8% de Grecs parlent français, c'est plus, c'est moins que les années précédentes. C'est dans quel usage pour la culture, pour le boulot?
C'est une langue plutôt de la culture, une langue qui a quand même de profondes racines ici en Grèce. Après, on a toujours nos amis anglais qui prennent peut-être le haut du podium, mais on se défend assez bien, avec un grand amour aussi pour le cinéma français.
Et puis aussi pour la musique, puisque j'ai cru comprendre que l'Institut français de Grèce proposait tous les mois une playlist en français.
Exactement, une playlist de musique francophone à travers le monde, que ce soit venu de France ou venu de Montréal ou d'Afrique. Tous les mois, une vingtaine de morceaux pour accompagner le public dans son quotidien, que ce soit sur Spotify, Deezer ou YouTube.
Et tous les genres de musique, francophone mais tous les genres?
Exactement, c'est assez ouvert, plutôt indépendant. On essaie de mettre en avant des artistes indépendants, mais tous les genres sont les bienvenus, du blues au jazz, à des choses plus rap, plus modernes. On fait le tour du cadran.
Merci Théo Koutsaftis. Eh bien, c'est un peu comme dans De Vive Voix, et aujourd'hui nous sommes rap.
Yeah, yeah. Je vise la grande œuvre et pas l'estime. Palestine. Avant de disparaître comme Palestine. Palestine. Ma langue résiste-t-elle à chantier? Tous ils s'entendent comme nazis, Argentine. Je m'en bois les couilles de l'argenterie. Je bricole mes trucs comme Dario Argento. Je traîne des pieds dans cet hôtel vide. Je suis Rachita, à toi Fodel bitch. Je vois dans vos nuits comme Velleda. Ne fait que des rêves prémonitoires. Jamais vu leur Beretta. Je lève la patte sur leur territoire. Ici le souffle est boréal. Bienvenue dans le pourrissoir. Monte sur les genoux de ton DA. Te racontera une belle histoire. Verse l'immensité d'un bout de création, mon pote. Laisse mes empreintes sur couche de neige carbonique après braser mon pote. Hey, ce jeu ne se termine jamais, crois-moi mon pote. Hey, je suis de retour tous les trois mois mon pote. Ligne de vie à prix d'amis, aucun retour aux pyramides. Wu-Tang qui la bise, putain qui la bite. M'en bats les couilles de l'ambiance frère. Je sais pas danser, je danse quand même. Sur mise en terre, chaque espoir estropié. J'ai pour combler ce vide en moi l'heptasyllabe approprié. Leur synthétique contre ma soie, rien à foutre de qui ça rime. Je veux être Goya ou de la croix. La grande
œuvre et Palestine. Avant de disparaître comme Palestine. Ma langue résiste, elle a chanté. Tous ils s'entendent comme nazis, Argentine. Mon poids les couilles de l'argenterie. Je bricole mes trucs comme Dario Argento. Je traîne des pieds dans cet hôtel vide. Je suis Rachita à toi, Fodel bitch. 15 ans je traîne dans ville obscure, je suis maîtrisé comme pilote sur système violent, crée fils obtus. J'ai eu le temps de voir leur vis au-dessus. Corbeille pleine à rabord, ébauche d'utopie, inaboutie. Sont tous foulus l'Éden, ça finira comme Djibouti. Avant je voulais sauver le monde, maintenant je voudrais qu'on me sauve de lui. Remonte la pente dans Berlin noir, lit le gliman au saut du lit. Couleur champagne avec un goût de mauvais mousse. Ancien comme empire mandingue venu sans flingue au coin du feu. J'ai toujours préféré les petits sentiers perdus mon pote. J'évite les évidences et leur trop large avenue mon pote. Disons tu as tes torts et j'ai mes raisons mon pote. J'ai toujours plus de mots et de combinaisons mon pote. Tu continues d'exister tant que les gens stream tes névroses. Cancer de l'ego mal dépisté, tu regardes progresser la nécrose. L'âme flattée puis étriquée, j'y ai goûté à petite dose. Demi-tour bien contrôlé, je préfère nager dans le fond des choses. La grande œuvre est Palestine. Avant de disparaître comme Palestine. Ma langue résiste, elle a chanté. Tous ils s'entendent comme nazis, Argentine. Je m'en bois les couilles de l'argenterie. Je bricole mes trucs comme Dario Argento. Je traîne des pieds dans cet hôtel vide. Je suis Rachita à toi, Fodel bitch.
Neige carbonique, extrait du premier EP du groupe Outre Noir sur RFI, c'est une nouveauté. Marin Fouquet, dans votre nouveau roman GAV, les références musicales sont omniprésentes. PNL, Frank Ocean, Freddie Mercury, voire même Stone et Chardin.
Ouais.
Pourquoi ? C'est votre quotidien, c'est le quotidien de la génération que vous décrivez ?
Oui, c'est à la fois beaucoup de choses que moi-même j'écoute, c'est des choses que j'ai écoutées aussi en écrivant, et c'est, je trouve qu'il parle bien mieux de l'époque que bien d'autres médiums. Enfin, la musique parle vraiment de notre temps.
Mais Stone et Chardin, c'est pas du tout votre époque.
Non, Stone et Chardin, c'est pas du tout mon époque. À la base, je me posais la question de quel chanteur ou chanteuse de ces années-là mettre, et je trouvais qu'il y avait...
C'est les années 70 à peu près, Stone et Chardin. Mais il est blonde, il est brun, c'est un peu nunuche.
Ben c'est clairement nunuche, et il y a cette chanson, il y a du soleil sur la France et le reste n'a pas d'importance. Et je trouvais que c'était un tel décalage avec ce qu'on vivait aujourd'hui. Et quand j'écoute ce genre de musique, je me dis, mais dans quel pays ou sur quelle planète vous viviez?
Oui, parce que je suis de cette génération, mais on trouvait ça déjà nunuche à l'époque. Okay, hein, et on savait très très bien que ce n'était pas du tout comme ça. Okay. Éloi Perfit était passé par là, notamment. En épigraphe du roman, de votre roman, Marin Fouquet, il y a aussi une référence musicale, Diams, mais aussi Dante. Ça fait un curieux assemblage, voire un grand écart.
Ouais, c'est deux artistes que j'admire. Et j'avais envie de les mettre, je les admire tout autant. Ils m'ont tout autant, l'une que l'autre, mis une claque littéraire dans la tête.
À 600 ans de distance.
Ouais. Ouais, ouais.
Votre roman se passe dans un commissariat avec des flics et puis des hommes, des femmes qui ont donc été arrêtés et qui sont en garde à vue. Ils ont quand même, pas tous, mais certains, un point commun, c'est la littérature. Et notamment cette jeune femme qui travaille dans un entrepôt de vêtements pour gagner sa vie. Elle fait du picking, alors je ne connaissais pas ce mot, mais elle écrit. Pourquoi l'avez-vous fait écrire ?
Parce que moi-même, en fait, quand j'ai commencé à écrire GAV, je travaillais en tant que manutentionnaire à faire du picking dans des entrepôts. Et le rêve de...
On va expliquer ce qu'est le picking. Hein.
Ouais, bah le picking, c'est aller chaque matin chercher dans tous les différents rayons du gigantesque entrepôt l'article ou les articles qui ont été commandés pendant la nuit. Donc on va picking, enfin on va piquer, on va prendre comme ça, les mettre dans une caisse pour qu'ils soient envoyés ensuite par colis.
Et souvent, le vêtement en question vaut deux fois le SMIC du mec ou de la nana qui fait du picking.
Ouais, en l'occurrence, dans l'entrepôt dans lequel je bossais, c'était ça, quoi. Je bossais des vestes, je portais des vestes à 1 500 € sur les épaules, alors que moi, j'allais gagner moins pendant le mois. Et j'en portais 10 comme ça à la suite. Et moi, j'étais pas encore publié pour le premier roman, et j'avais ce rêve de littérature. Et j'avais envie de parler de ça, j'avais envie de parler de ce rêve d'ascension sociale. Que semble donner la littérature.
Il y a un flic qui écrit aussi.
Ouais.
Dans GAV.
Ouais.
Ça, c'est paradoxal. Vous en avez rencontré beaucoup de flics poètes ?
Non, j'en ai pas rencontré. J'ai déjà rencontré une fois dans ma vie un gendarme poète qui s'appelle Charles Penquin, qui était gendarme et qui est poète. C'est son métier d'ailleurs maintenant. Le flic poète, c'était une manière aussi pour moi de réussir à m'identifier plus à lui. J'ai comme seule et unique règle pour le moment, c'est d'essayer d'aimer chacun de mes personnages pour les écrire avec le plus de justesse possible. Et ce personnage de flic qui est très loin de moi, j'avais besoin de l'aimer. Et pour ça, comme on fait parfois quand on rencontre quelqu'un, de projeter des choses de soi sur l'autre, ce qui n'est pas forcément très intelligent, mais qui est peut-être la méthode la plus facile pour s'attacher à quelqu'un.
Et si ce personnage n'avait pas écrit, vous ne l'auriez pas pu l'aimer ?
Peut-être que j'aurais mis plus de temps à l'écrire.
Comment raconter ce roman, Marin Fouquet ? Parce que c'est presque du théâtre, ça se passe dans un temps donné, il y a une unité de temps et une unité de lieu, et puis des personnages et des voix. On ne les distingue pas toujours, en tout cas d'ailleurs pas tout de suite, ils sont souvent dans l'ombre. Donc ça pourrait être du théâtre, mais ça pourrait être aussi de la peinture, ou en tout cas comme une fresque, voire une partition d'orchestre. Donc ça pourrait être beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous vous êtes raconté quand vous l'avez écrit ?
Ben, un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire que oui, je voulais faire une fresque, en creux de notre société, c'est-à-dire montrer, essayer d'écrire ce qui se passe dans notre société, mais par le biais de ce qu'on pourrait appeler les parias, les rejetés, les exclus. Qu'est-ce que les exclus nous disent de notre société ? Donc exclus parfois juste d'une nuit, d'une garde à vue, exclus d'une vie, exclus sur plusieurs générations. Et qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Qu'est-ce qu'ils disent justement de la norme lorsqu'on est un peu à l'écart, qu'est-ce que ça raconte sur la norme ? Donc une fresque, ouais, musicale parce que chacun a sa propre voix, c'est un roman polyphonique où effectivement chaque chapitre pourrait être une sorte de morceau à une playlist beaucoup plus grande. Un peu tout ça, ouais. Ce que je me suis raconté, c'est que je voulais embrasser le plus large possible de notre société en parlant d'un moment précis, c'est-à-dire montrer l'extérieur en mettant le nez du lecteur et de la lectrice dans l'intérieur.
Vous dites que c'est un roman de l'extrême rebord de la société.
Oui.
Juste avant que l'on ne tombe, que l'on ne bascule.
Oui.
Et cette garde à vue, dites-vous, est un siphon.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle peut absorber dans un sens ou refouler dans la société.
Exactement. Quand on est dans la garde à vue, on est à cet endroit-là du siphon où il y en a certains qui vont totalement tomber dans le tuyau et aller à la casse-prison. Il y en a d'autres qui vont sortir in extremis. Et ça, en fonction de privilèges assez connus. Hein. Il suffit de voir le nombre de personnes tuées par la police chaque année. L'essentiel sont racisés. Il suffit de voir le nombre de personnes interpellées. L'essentiel sont racisés. Et en prison, l'essentiel des prisons françaises sont remplies de personnes racisées.
On ne va pas raconter tous les personnages parce qu'ils sont assez nombreux et de type un peu différent. Mais il me semble que l'un des personnages principaux, c'est Angèle, qui est peut-être le plus attachant d'ailleurs, okay. Et qui est racisé justement, et qui a connu les contrôles d'identité à partir de 9 ans, et pour qui c'est le quotidien. Est-ce que pour vous aussi, Marin Fouquet, c'est l'un des personnages principaux où ils se valent un peu tous ?
Pour moi, ils se valent un peu tous, mais c'est vrai qu'il y en a deux qui sortent un petit peu de tout ça, c'est la jeune femme qui est en entrepôt, et Angèle. C'est les deux qui, moi, m'ont permis de faire avancer cette histoire. Et effectivement, Angèle, il connaît ça depuis 9 ans. Avant d'être manutentionnaire, je bossais, j'étais pion dans un collège de classé REP+, donc zone prioritaire à Paris, à la Goutte d'Or. Et c'est vrai que j'avais des collégiens, donc en 6e, 5e, qui me racontaient leur contrôle d'identité. Et en 6e, ils s'étaient déjà retrouvés le corps contre le trottoir, contrôlé en ligne comme des grands bandits, alors que c'était juste des enfants.
Mais c'est peut-être ce personnage aussi, Marin Fouquet, qui fait de vous un écrivain politique. Parce que c'est un livre politique. Jusqu'à combien de générations on est issu de l'immigration ? C'est comme ça, juste. J'ai fait du picking dans votre roman. C'est une phrase intéressante.
Oui.
Jusqu'à combien de générations on est issu de l'immigration ?
Bah, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, qui me scandalise, qui me heurte de voir en permanence dans les médias, mais même dans la rue, dans l'intime, des personnes être ramenées au pays duquel leurs arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents sont d'origine. Moi, on me ramène jamais à mes origines polonaises, par exemple. C'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Et donc, c'est... Oui, je crois qu'on est dans un... Moi, j'ai la sensation que la France reste un pays colonialiste et en ça, un système plutôt raciste.
Marin Fouquet, j'aimerais que vous lisiez un extrait de votre roman. Alors, c'est parfois cru, mais dans l'extrait que l'on a choisi, que j'ai choisi, que je vous impose de lire, il y a aussi une note d'humour.
Dans cette cellule de commissariat, on se sentait l'Ulysse dans son cheval de Troie, au plus profond du ventre de la baleine. S'agit de bien foutre le feu à leurs idées. Guerre psychologique, saper le moral des troupes, les pousser au nervous breakdown, chaos debout, burn-out total. Nous, c'est OK. La cellule du commissariat précédent était vraiment hardcore, du genre néon jauni, mur ocre merde avec inscription digne d'une grotte de Lascaux de fin du monde. À côté, celle-ci ressemble à un lit à baldaquin. Une large cellule rectangulaire avec un banc de béton qui court sur chaque mur de la grande vitre en plexiglas, le couloir et ses néons derrière. Ça manquerait presque de charme. Mais les couvertures grattent, secs, et les flics sont des chiens. Sur ces points, on ne nous a pas menti dans la brochure. Même, il n'y a pas de chiottes. On doit être en cellule de dégrisement, alors on a vite compris qu'il y avait moyen de frapper fort. Cris sans réponse. Hurlement de loup à la lune. Chassé de semelle contre paroi, à t'en faire trembler le grand capital. D'où on interdit un homme de pisser. Hommes et femmes, libres et égaux en droit de pisser selon leur désir.
Marin Fouquet, vous avez déjà été en garde à vue, parce que je vous ai dit que moi non, mais vous
Je pose ma carte joker.
En tout cas, on est dedans. En lisant le livre, on est dedans.
Ouais, bah, merci.
Et vous dites, je vous cite là encore, j'ai fait du picking, que c'est une écriture au plus proche des pores des organes. C'est ce qui vous intéressait d'être comme ça, en frottement avec la réalité?
C'est ce qui m'intéressait, et puis bah, je vais encore une fois malheureusement reprendre Beckett, mais je sais faire que comme ça. C'est à partir de toujours du corps que j'écris. Le premier roman, c'était déjà à partir du corps, là aussi. Et pour moi, il y a tout un monde qui se passe dans ce que le corps porte, à la fois de trauma, à la fois de possibilités, dans un geste, dans l'ouverture d'un bras, dans tout ça, en fait. Il y a un univers entier, et c'est à partir de cet univers-là que j'essaie d'écrire.
Et vous écrivez avec des phrases courtes, mais pas toujours. Il y a aussi des très très longues phrases, avec le sens de la formule souvent. Est-ce que c'est une écriture qui vous vient spontanément comme cela, avec un effet punchline, formule, ou est-ce que c'est un travail d'orfèvre, de reprise continuellement du texte?
En fait, j'ai commencé l'écriture par le rap. Et dans le rap, on écoute beaucoup. On écoute ce qu'on écrit. On passe son temps, justement, on écrit quelques mots, on écoute comment ça sonne, on cherche les mots suivants, on écoute. Et ça m'est resté. Donc du coup, même quand j'écris un roman, j'écoute les phrases. Pour moi, c'est plus important où on place une virgule, quel rythme il y a entre plusieurs phrases. C'est bien plus important presque que l'histoire, même si elle est importante. Pour moi, il faut que ça sonne avant tout.
Donc vous écrivez à haute voix?
J'écris à l'oreille. Avant, j'écrivais à haute voix. Maintenant, j'arrive de plus en plus à entendre la voix dans la tête, mais j'écris toujours à l'oreille.
Marin Fouquet, on vient de vous entendre écrivain, mais il y a aussi le Marin Fouquet rappeur qu'on a évoqué. C'était à Toulouse, je crois, au Marathon des mots obscènes, c'est le titre.
Les requins aux pieds, Bresson, ma poésie, moi pas venu en paix, sueur et frénésie, le silence après. Succèdent à la routine, applaudissent âpre, comme le goût de ma résine, applaudissent âpre, applaudissent âpre, applaudissent âpre, applaudissent âpre, applaudissent âpre, applaudissent âpre, apprivoisez moi, à grand coup de clap, 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 frappe dans le sac, corps qu'encaisse, cri échappe, foule ivresse, brise soupape, crache de caisse, gloire me drape, fin de mai, je me sens papa, j'ai peur, je me casse, trace, trace, sueur, public, nas, nas, clameur, laissez-moi. Seul sur scène, mourir, seul sur scène, face à une salle pleine, exhibe ça sous le peine, c'est mieux que dans la rue, c'est mieux que dans son lit, c'est mieux que dans son jus, je suis né dans un cri, comme tout le monde.
comme tout le monde. Le rythme, les rimes, la charge, on retrouve tout cela dans GAV, votre roman, mais en effet, ce n'est pas exactement la même écriture. Vous faites le distinguo, vous, Marin Fouquet.
Ouais, sur le premier roman, 7-7, je ne l'avais pas fait du tout. Et on est vraiment dans une écriture qui est faite pour être quasiment lue à haute voix. Et j'avais envie, pour ce premier roman, j'avais envie de quelque chose de presque d'hostile au lecteur et à la lectrice. Et en rencontrant, après la sortie du livre, les lecteurs et les lectrices, j'ai trouvé en fait vachement dommage qu'il y ait une partie qui soit passée totalement à côté, qui ait dit « non, moi, je n'ai pas réussi à rentrer dedans ». Et donc, pour celui-là, je me suis dit « ok, t'écris un livre, assume ». Et donc, écrit pour qu'il soit lu. Et donc, il y a toujours, je pourrais pas faire autrement. C'est comme ça que j'écris, j'écoute les phrases, je sais pas écrire différemment. Mais j'ai essayé quand même de me poser la question de est-ce que là je fais assez rentrer, est-ce que là je permets assez.
En vous lisant, j'ai pas joué vraiment à ce jeu-là parce que je le savais, mais je me suis dit, tiens, quel âge a l'auteur qui écrit ce livre-là ? Et vous avez 30 ans. Et vous ne pourriez pas en avoir 50 ou 60. Il y a un effet génération. Est-ce qu'aujourd'hui, la littérature peut écrire en ignorant justement cette musique, le rap, le slam ?
Oui, elle peut. Elle peut carrément. Hein. Elle peut. Je pense qu'il y a plein de vieux jeunes dans la littérature. moi, j'imagine. Enfin, voilà, ça me parlerait pas. Pas tant que ça, je crois. J'en lis pas des comme ça et je crois que ça me parlerait pas.
Mais vous avez l'impression de faire partie d'une génération, d'une nouvelle génération d'écrivains ?
J'espère. Je connais pas, je sors pas beaucoup et je rencontre pas beaucoup d'écrivains. Mais j'espère qu'il y en a d'autres. J'espère bien.
Alors, il y a cette écriture, il y a ce rythme, il y a cette musique dans ce roman GAV. Mais il y a aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je vous ai suggéré que vous étiez un écrivain politique, je ne sais pas si vous rebondissez sur cet adjectif, mais en tout cas, c'est une écriture très engagée qui frise l'appel à la révolution. Quand je lis « Cette société ne se cimente que par la peur et les traumas, ça peut pas tenir, ça va péter », ce n'est pas simplement un de vos personnages qui parle, c'est vous.
Oui, de toute façon, je pense que dans tous les personnages, il y a un peu de moi malgré moi. Et en même temps, on écrit, je crois, qu'à partir de soi. Et faire semblant d'écrire à partir de quelqu'un d'autre, ça serait mentir. Oui, politique, moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Je crois qu'on arrive là, à un moment donné, en bout de course dans cette société française. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Parce que sinon, ça va effectivement partir en vrille.
C'est quoi ?
Comment ça ?
Quoi ? Que doit-il se passer ?
Une prise de conscience et un examen de conscience de la classe politique. À un moment donné, à chaque élection, il y a de plus en plus d'abstention. Ils ne représentent plus personne. Ils continuent à faire des choix pour le plus grand nombre sans représenter personne. Et des montées de l'extrême droite qui arrivent de manière extrêmement inquiétante. Des propos dans les médias où on va parler de personnes décoloniales. Et décoloniales, c'est devenu un tort dans la bouche de la majorité des personnes. Enfin, la décolonisation, ça n'a rien d'un tort, c'est ce qu'il y a de plus légitime et normal. Et on en arrive à ça, donc il va falloir que ça se réveille.
Marin Fouquet, le dernier chapitre de votre roman s'intitule « Si c'était mon dernier », point de suspension. C'est comme un épilogue poétique. Vous écrivez « Si c'était mon dernier hommage, ce serait pour les 747 citoyens et citoyennes abattus par la police française de 1977 à nos jours ». Le chiffre est absolument énorme. Et si c'était votre dernier mot ?
Je crois que malheureusement, ça serait un très long.
Merci Marin Fouquet.
Merci à vous.
GAV est édité chez Actes Sud, comme votre premier roman 7-7. Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Olivier Roux à la réalisation. On se retrouve demain pour de la musique.